était de traiter les courbatures musculaires de la sclérose en plaques et dont le docteur Olivier Amezen a découvert que, pris à forte dose, son effet secondaire principal était de couper l'envie de boire de l'alcool. Depuis, de nombreuses études ont démontré son efficacité. Les dernières en date présentées le week-end dernier à Berlin soulignant que le baclofène n'est pas une pilule miracle mais un élément de plus dans la panoplie de lutte contre l'alcoolisme. Alors, quelle est la définition exacte de l'alcoolisme? À partir de quand faut-il agir? Avez-vous déjà pris du baclofène? Vous avez la parole, amis auditeurs de France Inter.
Nicolas Demorand, le téléphone sonne.
01 45 24 7000 franceinter.fr, Twitter avec le mot clé Telson. Je salue Pierre. Bonsoir Pierre.
Bonsoir, bonsoir à tous.
Vous nous appelez de Guadeloupe.
Oui, alors je vais être rapide comme on me l'a demandé. Voilà, j'ai rencontré un problème avec l'alcool. Je buvais trop, j'étais au-delà de la dose toxique. Ça n'avait aucun danger pour moi puisque je ne conduis jamais quand je bois. J'ai essayé de rencontrer le baclofène par l'intermédiaire, de la télé, de la radio, etc. J'ai essayé d'en avoir auprès de mon généraliste qui, à l'époque, m'a dit qu'il n'avait pas le droit. Il m'a donc dirigé vers un addictologue qui m'en a donné. Cet addictologue m'a expliqué que c'était à partir d'une dose qu'il m'a prescrite, lui, il m'a expliqué que c'était à moi d'adapter la dose selon les besoins que j'en avais. Donc, j'ai réussi à trouver la dose dont j'avais besoin. Ça m'a servi d'une béquille phénoménale. Ça permet à l'esprit d'oublier que l'alcool existe pratiquement, disons que ça ne coupe pas les envies, disons que ça aide, il n'y a aucun problème, je suis d'accord avec ce que vous avez dit, c'est une aide, c'est une béquille formidable.
Mmh. Vous continuez, permettez-moi une question, vous continuez à en prendre aujourd'hui? Alors, du baclofène?
Là, j'ai arrêté d'en prendre parce que j'ai pas vraiment envie de boire, donc disons que j'ai décidé de m'en passer, j'ai eu besoin de ça, comme une béquille. Maintenant que je me remets à marcher, j'arrête les béquilles.
Et vous vouliez ajouter quelque chose, Pierre?
Oui, il faut absolument que les médecins habituels, généralistes, admettent que leur patient, si c'est bien expliqué, peut être lui-même adaptateur, peut adapter lui-même sa dose pour trouver la dose dont il a besoin. Mmh. Voilà, il faut permettre aux patients cette liberté. Je crois que c'est ce qui gêne quelques médecins, mais accorder aux patients la liberté d'adapter sa dose.
Merci Pierre pour ce témoignage, pour débattre du baclofène, de l'alcoolisme. Michel Reynaud, bonsoir.
Bonsoir.
Monsieur le professeur en addictologie à l'hôpital Paul Brousse, président du fonds Action Addiction. Professeur Philippe Jory, bonsoir.
Bonsoir.
Professeur de médecine générale à l'université Paris-Descartes. Bonsoir Daniel Messager.
Bonsoir.
Spécialiste santé à la rédaction de France Inter. Qui veut réagir à ce témoignage? Michel Reynaud.
Oui, il est assez classique. Nous allons voir là, quand on va parler du baclofène, ça marche à peu près dans un cas sur deux. Donc, selon les auditeurs que l'on aura, il y en a qui seront contents et d'autres qui seront pas contents. Ça marche plus ou moins bien avec plus ou moins d'effets secondaires. Effectivement, et c'est bien le problème, il y a des doses variables selon les patients. Donc, ce monsieur a tout à fait raison de dire qu'il faut tâtonner et trouver la bonne dose, que ça diminue l'envie, mais que ça n'est pas tout. On a un certain nombre d'échecs qu'on peut étudier, soit liés au produit, soit liés au contexte de vie du patient. Je trouve que c'est une bonne façon d'introduire le problème.
Il dit, Pierre, de manière assez mystérieuse, que l'envie a comme disparu, l'envie de boire. C'est ça l'effet principal du baclofène, Philippe Jory?
Pour moi, oui, c'est vraiment ce qu'on appelle l'indifférence à l'alcool. C'est vraiment les patients qui nous disent, voilà, moi je passe devant mon café habituel ou je passe devant mon magasin habituel de vente de boissons alcoolisées et il se passe rien. C'est-à-dire mon cerveau s'allume pas, j'ai pas d'envie et je passe. Et c'est pareil, ils nous disent, quand ça marche, ils nous disent, voilà, j'ai mon verre, je me suis même pas rendu compte que je l'ai pas fini mon verre. Mmh. Ce qui pouvait pas être possible avant. Donc l'indifférence, qui est un nouveau concept pour moi en tant qu'alcoologue depuis 30 ans, c'est assez spectaculaire. En plus, ce que j'ai envie de dire, c'est que il a dit quelque chose d'important, c'est vraiment un traitement à la carte. il faut que le patient y participe. C'est comme ça qu'on fait maintenant, d'ailleurs pour toutes les pathologies, on pense que le patient il doit participer. Il faut que les médecins se forment, les médecins généralistes doivent se former, moi en tant que généraliste je dois le dire, on en forme beaucoup déjà. Il faut pas qu'ils aient peur du patient qui a des problèmes d'alcool. L'alcool est un produit qui entraîne des grandes souffrances, il faut s'occuper de la souffrance du patient.
Quand vous parlez de souffrance, vous pensez à quoi exactement? Souffrance physique et psychique?
Non, c'est souffrance psychologique. C'est des gens qui sont en grande souffrance parce que c'est la double peine. C'est-à-dire que c'est pas un manque de volonté, l'alcool, c'est un problème vraiment, c'est plus fort qu'eux. Et ils sont en souffrance parce que ils y arrivent pas. Et en plus, on leur dit qu'ils manquent de volonté. On les accuse, on les renfonce encore plus. C'est la double peine pour moi.
Oui, Michel Reynaud, puis Daniel Messager, on retourne au standard.
Alors, après. Deux choses. C'est vrai que le baclofène, quand il marche, et dans l'étude que j'ai pilotée, le meilleur résultat qu'on avait, c'est sur ce qu'on appelle le craving, que les patients appellent l'indifférence à l'alcool, c'est-à-dire le besoin compulsif de boire et la perte de contrôle. Et ça caractérise la dépendance. C'est-à-dire que quand vous commencez, vous ne pouvez pas vous arrêter, ou à un certain moment, vous êtes pris d'une envie très importante, souvent dans les situations de stress que les fumeurs connaissent bien, où ça donne un peu une idée de ce qui est vécu, c'est-à-dire d'un besoin, je ne peux pas m'en passer, il faut que j'y aille. Et donc ça, c'est cette pression du besoin qui diminue avec le baclofène et qui donc explique les diminutions de consommation, je l'ai bien dit encore, dans les cas où ça marche. Et pour rebondir sur ce que disait Philippe Jory, effectivement, l'alcool, c'est et beaucoup de souffrance pour les proches et la perte de contrôle et la souffrance de la perte de contrôle.
Daniel Messager.
J'ai réalisé un certain nombre de reportages depuis qu'on parle du baclofène, avec vous deux messieurs d'ailleurs, et avec aussi des utilisateurs du baclofène. Et pour faire suite à ce que disait le premier auditeur, je me souviens d'une phrase que m'avait dit une personne, c'était une femme, qui m'expliquait qu'auparavant, avant le baclofène, son verre l'appelait toujours. C'est-à-dire qu'il y avait un premier verre, puis son verre l'appelait pour un deuxième, puis pour un troisième, et qu'après le baclofène, son verre ne l'appelait plus. Moi, c'est une phrase qui m'avait beaucoup marquée, parce que c'est quand même très représentatif de ce que ça peut avoir comme effet sur un certain nombre de personnes. Une question peut-être pour Monsieur Reynaud.
Allez-y, Daniel.
Vous avez dit en préambule que ça marchait pour un cas sur deux à peu près des patients. Est-ce qu'il y a avant le baclofène d'autres produits, d'autres traitements qui marchaient, qui fonctionnaient, qui donnaient des résultats dans 50% des cas?
Michel Reynaud.
Je serais prudent, parce que là on a montré dans les études qu'on a présentées tous les deux, qui étaient des études dans d'assez grandes populations en double aveugle, un résultat, une diminution de la consommation, pas de résultat dans l'abstinence, et cette diminution de la consommation marchait à peu près dans un cas sur deux. On n'est pas très loin de ce que donnaient déjà les autres médicaments.
Je suis pas du tout d'accord.
Alors,
Philippe Jory va.
Mon collègue n'est pas d'accord, quand on regarde les courbes que nous avons, elles sont assez proches.
C'est l'abstinence.
Philippe Jory.
Parce que leur critère principal, c'est l'abstinence. Or, nous, on n'est plus du tout dans l'abstinence. Les patients qui sont rentrés dans mon étude, au départ, ils ont dit, mais moi, je veux pas être abstinent. Je veux boire comme tout le monde.
Boire moins et contrôler, c'est
oui,
ça. Voilà.
Et avoir une consommation qu'on appelle médicalement correcte, selon les recommandations de l'OMS. Ça tombe pas de n'importe où. Et ces patients-là, évidemment, ils sont pas abstinents, puisque c'est pas leur objectif. Par contre, ce qu'on voit, c'est que certains, dont c'était pas l'objectif d'être abstinent, ils nous disent, au bout de 3-4 mois, vous savez, finalement, je bois plus. Hein. Mmh. Donc, pour moi, l'abstinence dans ces cas-là est une conséquence du traitement et pas un objectif. Mmh. Complètement différent. On est dans la réduction des risques.
Barbara, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Vous nous appelez de Tours, soyez la bienvenue.
Écoutez, oui, mais vos interlocuteurs viennent de dire ce qui m'est arrivé exactement.
Alors dites-nous,
Alors je redis, donc j'en suis arrivée vers le baclofène grâce à Daniel Messager et à une radio qui un soir m'a parlé du baclofène et surtout du livre d'Olivia Mézen. Mmh. Et donc, cherchant justement à sortir de la dépendance et refusant l'abstinence, j'étais bien confrontée à ce problème, je ne m'en sortais pas. Et donc, j'ai commencé le baclofène, j'ai augmenté les doses, et plus les doses ont augmenté, plus les doses d'alcool diminuaient d'elles-mêmes, jusqu'à arriver à cette indifférence, effectivement, ce ressenti réel d'indifférence, et cette capacité maintenant, donc sur un parcours de 4 ans, hein, on est en donc en septembre 2016, oui, l'alcoolodépendance est derrière moi. Réellement, avec une possibilité, comme l'a dit ce monsieur tout à l'heure, de retrouver une consommation conviviale dans de bonnes conditions, avec surtout, et ça c'est merveilleux, pouvoir avoir de l'alcool chez soi sans que ce soit systématique d'aller en consommer.
Donc ça a duré 4 ans hein, de baclofen, c'est ça Barbara?
Je continue à en prendre 6 par jour.
6 par jour par rapport à l'époque où vous preniez de plus grosses doses, c'est quoi le rapport? Vous en preniez combien?
J'ai été jusqu'à prendre 120 mg. En fait, au bout de 120 mg, je suis montée donc de 0 à 120 mg en 6 mois. Mmh. Et je suis restée à 120 mg un certain temps. Et au bout d'un certain temps, oui, effectivement, j'ai vraiment ressenti, je n'avais plus de manque. Parce qu'en fait, ce que vient traiter le baclofène, c'est cet état de manque permanent qui fait qu'on a besoin de boire. C'est ça que ça vient éteindre à l'intérieur du cerveau.
Et depuis, donc, pour que les choses soient bien claires, vous en prenez 6 par jour pour atterrir en douceur et continuer tranquillement le chemin qui est le vôtre aujourd'hui.
Tout à fait, et pouvoir être dans une consommation, j'ai envie de dire, même plus que raisonnée, puisque j'en suis même finalement, après cet épisode de forte dépendance, à une consommation qui était moins importante qu'avant d'entrer en dépendance. Mmh. Alors c'est, voilà. Donc ça fonctionne, bien entendu, et j'encourage toutes les personnes à aller voir leur médecin, à en parler, parce que la parole aussi, ça fait beaucoup de bien. Et juste pour finir, je voulais dire que les généralistes sont souvent, oui, pour la plupart, bien démunis face aux personnes qui arrivent chez elles et qui osent en parler. Mmh. Alors, je ne sais pas ce qu'il en est de cette formation.
On va demander à Philippe Jory, effectivement, Barbara, ce qu'il en est de la formation des généralistes. Merci beaucoup pour votre témoignage.
Merci à vous.
Et Daniel Messager vous salue, elle est là, dans le studio. Philippe Jory, formation des généralistes.
Écoutez, pour moi, parmi les différentes compétences qu'ont les généralistes, il y a la globalité, la prise en charge globale des patients, biologique, médicale, psychologique, sociale, la compétence continuité, c'est-à-dire qu'on continue à voir nos patients sur toute leur vie, une partie de leur vie, la compétence coordination avec les centres sociaux, avec les psychiatres, les psychologues. Je pense que le généraliste, il est vraiment très bien placé pour suivre ses patients. Mais bon, on peut pas l'obliger à le faire. Il y a des généralistes qui ne suivent pas de patients qui ont du diabète. Ils n'ont pas envie de prescrire de l'insuline. Donc on peut pas l'obliger. Il y a un certain nombre de généralistes. Dans mon étude Bacleville, ce sont des généralistes qui ont pris en charge leurs patients. Et ce qui fait que le placebo a très bien marché. Le placebo, 36% de bons résultats avec le placebo. Il y a l'effet baclofène, bien sûr, mais il y a aussi l'effet prise en charge globale dans la continuité du médecin généraliste. On les forme le mieux possible. On a créé un réseau qui s'appelle le RESAB pour former les généralistes qui sont intéressés à la prise en charge des patients qui ont des problèmes d'alcool. Ça n'empêche pas, le baclofène est une molécule, c'est une béquille extraordinaire. Ça n'empêche pas de faire des psychothérapies. Dans l'étude Bacleville, on a 36% de 34% de patients qui ont eu des traumatismes sexuels dans leur enfance et dans leur adolescence. Et évidemment, ces patients, ils ont aussi besoin qu'on les écoute, qu'on les aide avec des psychothérapies, une prise en charge globale. Global, pas simplement une molécule, on est d'accord.
Michel Renaud, vous voulez ajouter quelque chose ?
Oui, la formation des médecins en France est encore très insuffisante sur le plan des addictions, et même s'il y a des lieux où c'est particulièrement bien fait, globalement ils se sentent assez démunis. Ça fait très peu partie de leur cursus de formation, et donc ils se sentent démunis, savent que s'ils commencent, ils auront à s'occuper de quelqu'un qui va leur prendre du temps, pour lequel il n'y aura souvent pas de résultat. Ils n'ont pas l'impression qu'ils connaissent derrière les circuits pour se faire aider, donc il est plus facile de ne pas vouloir entendre dans un certain nombre de cas. Un des avantages du baclofène et d'autres molécules qui se sont centrées sur la réduction des consommations, ça a été de faire sortir une partie de la population qui ne savait pas comment en parler. Ce que l'on peut dire maintenant, c'est que avec le fait que soit arrivé sur le marché le Selincro et le baclofène, on a doublé le nombre de personnes qui étaient suivies en 5 ans. C'est-à-dire qu'il y a 5 ans, il y avait 125 000 personnes souffrant de problèmes d'alcool qui se soignaient. Maintenant, il y en a 250 000. 100 000 baclofène, 100 000 Selincro et 50 000 avec les médicaments
c'est
plus
anciens. L'équivalent, il y a des questions sur le Selincro, c'est pareil, c'est autre chose, alors, ça fonctionne de la même manière, c'est quoi?
On va en discuter. Moi, je considère que c'est un bon médicament pour diminuer les consommations. Là encore, ça ne marche pas chez tous les patients. C'est un médicament de maniement simple. Le baclofène peut, dans certains cas, être plus compliqué dans la prescription. Il faut avoir une certaine habitude et une certaine envie d'accompagner. Donc, l'un et l'autre ont tout à fait leur place. Et on est arrivé, comme je vous le disais, à 250 000. On est passé de 10% à 20%. C'est une des rares.
En termes de santé publique,
est un énorme progrès. En même temps, 50 ou 60% des dépressions sont soignées et 80 à 90% des schizophrénies. L'alcool est une maladie absolument catastrophique, mais pour des raisons dont on pourrait parler. Il n'y avait qu'une toute petite partie de gens qui venaient en bout de course se faire aider. Maintenant, avec ces nouvelles façons de voir qui est la diminution de consommation possible, qui ne marche pas, c'est tout le monde. Pour dire et redire que dans un cas sur deux, on est obligé de sortir la grosse panoplie et c'est souvent difficile. Mais globalement, on a doublé le nombre de gens en difficulté qui venaient demander de l'aide.
Daniel.
Alors j'ajoute que la prise en charge était compliquée aussi pour les médecins généralistes parce que c'est un médicament donc qui n'a pas d'AMM, d'autorisation de mise sur le marché pour cette indication. Mmh. Il est délivré actuellement au titre d'une autorisation temporaire d'utilisation. C'est vrai que beaucoup de médecins, enfin un certain nombre de médecins, de moins en moins sans doute, mais un certain nombre de médecins au début en tout cas répugnaient à prescrire un médicament qui n'avait pas d'AMM pour cette autorisation. Ça a été un petit peu allégé entre temps. Mais ça a été un frein aussi, ça a été un frein. Et actuellement, cette autorisation temporaire d'utilisation est délivrée jusqu'en mars de l'année prochaine. Et on attend les résultats à la fois définitifs de l'étude que vous menez, Philippe Jory, étude Baclofène, et d'une étude sur les effets secondaires aussi qui est menée en parallèle.
Philippe est en ligne, Philippe de Vaison-la-Romaine. Bonsoir, bienvenue Philippe.
Bonsoir monsieur.
Nous vous écoutons.
Eh bien, moi, je téléphone pour dire que je prends du baclofène j'ai arrêté depuis un mois. Je prends du baclofène depuis un an, pratiquement. Je ne suis pas, enfin, je ne me considère pas comme un alcoolique forcené. Je ne bois que du bon vin des Côtes du Rhône. Je voudrais arrêter. Le baclofène, au début, m'a aidé à diminuer énormément ma consommation, mais chasser le naturel, il revient au galop.
Mais le naturel, vous l'avez chassé, enfin il est revenu au galop parce que vous aviez arrêté le baclofène. Vous l'avez mal pris, comment
tout.
Ça s'est
je
passé? Qu'est-ce
pas
qui s'est
arrêté,
passé?
Mais même avec le baclofène, j'ai recommencé à boire entre 2 et 3 litres de rosé par jour. Donc j'en suis arrivé. Pourtant j'étais suivi depuis un an par un médecin addictologue de l'hôpital. Et dans 8 jours, je rentre pour 6 semaines de cure de désintoxication. Donc je voulais simplement témoigner du fait que, à mon avis, le baclofène n'est pas la solution à tous les problèmes, quoi. Il y a peut-être des gens pour lesquels ça marche bien, mais en tout cas pour moi, ça m'a pas empêché d'avoir envie de boire mon petit canon, quoi.
Merci pour ce témoignage, Philippe. Voilà donc, comme vous le disiez, Michel Reynaud, personnes qui ont éprouvé au contraire l'échec avec le baclofène. Alors, je voudrais préciser ma question. Comment s'explique, est-ce qu'on sait expliquer le succès dans un cas, l'échec dans l'autre? Pourquoi ça marche pour les uns, pas pour les autres?
Non, c'est pas très bien. On peut avoir des idées quand, en fonction de la gravité de la dépendance, mais ça n'est pas une certitude du tout. J'en ai vu des patients auxquels on pensait pas que ça marcherait, pour lesquels ça marche, et d'autres pour lesquels on sous-évaluait le degré de dépendance. Je trouve que ce monsieur décrit très bien Il faut essayer. Si ça marche pas, on reprend les méthodes classiques et on rentre...
En cure de désintoxication. Alors, qu'est-ce qu'on y fait en cure de désintoxication par rapport à une prise de baclofène, pardon?
Ben, on est d'abord dans un milieu protégé pendant un certain temps. Et là, il semble que ça va être un temps assez long, pendant lequel on peut se sevrer, puis n'être que dans la réflexion sur sa consommation et sur les moyens de la contrôler. Dans un milieu qui, a priori, est positif et soutenant, je crois aussi beaucoup, énormément, à l'aide des associations d'anciens buveurs pour accompagner, une fois que les gens sont sortis, et pour leur donner l'espèce de soutien humain dont on a besoin, parce que, comme Philippe l'évoquait tout à l'heure, il y a souvent une grande difficulté dans la relation à autrui, plus encore quand on est devenu dépendant, et donc on a besoin d'être accompagné et aidé. Et ça, quand le baclofène marche et qu'on a un entourage familial qui reste solide, c'est très bien. Quand on est démuni, à ce moment-là, il y a tout un travail d'accompagnement, souvent fait par des professionnels et des associations.
C'est à l'hôpital, quand on parle de cure de désintoxication, le sevrage doit être sous contrôle médical?
Oui, il doit être fait dans des services spécialisés.
Pour quelle raison?
Alors, le sevrage peut se faire aussi en ambulatoire.
Oui, le sevrage peut se faire en ambulatoire.
Alors, pourquoi il faut surveiller en cas de sevrage?
Parce qu'il peut y avoir ce qu'on appelle le délirium tremens, il peut y avoir des convulsions, il peut y avoir des complications importantes qu'on connaît tous, hein, je veux dire tous les médecins connaissent. Donc il faut qu'il y ait une surveillance, il faut qu'il y ait une prise en charge médicamenteuse. Mais la plupart des cures de sevrage se font actuellement en ambulatoire. Là c'est différent.
C'est une forme grave qui nécessite un accompagnement addictologique spécifique en l'aidant à retrouver un contrôle, mais c'est souvent difficile et compliqué. Et il faut du temps pour que le cerveau puisse se remettre à fonctionner avec un peu moins cette pression à consommer.
Daniel.
Je voulais demander à Philippe Jory, pour revenir sur le précédent auditeur, chez qui ça n'a pas fonctionné effectivement, est-ce que ça peut être pour une question de dosage? On est bien d'accord que c'est pas un médicament miracle et que ça n'agira jamais à 100%, mais est-ce que effectivement ça peut être une question de dosage et que la personne, si elle n'est pas bien suivie, si elle-même n'a pas bien pris en main sa maladie, peut passer à côté d'une sortie de cette maladie à cause d'un mauvais sevrage?
Philippe Jory.
Oui, donc d'abord j'aimerais dire que le miracle c'est du domaine du religieux et pas du médical. Il faut arrêter de parler de miracle. Donc surtout si on dit qu'il y a un patient sur deux qui peut s'en sortir grâce au baclofène. Alors il est possible que ça soit un patient qui soit pas non plus très motivé. On l'entend bien dans son discours par rapport aux Côtes-du-Rhône, et puis en fait c'est du rosé, 2-3 litres. Il était peut-être pas très motivé. Il était peut-être pas très bien entouré par sa famille, par son entourage. Il y a peut-être aussi une prise en charge aussi qui n'était pas bien faite. Et puis peut-être que ça marchait pas. Peut-être qu'il n'a pas atteint le dosage. On pense à l'heure actuelle que le plus difficile, c'est de trouver le bon dosage. Et puis, il y a des effets secondaires quand on monte trop vite, quand on ne sait pas manier cette molécule. Pour moi, c'est aussi difficile que je vous dis que pour le diabète, manier l'insuline, si on ne sait pas, il vaut mieux pas en donner.
Je voudrais donner la parole à Lydie de Montpellier, puis à Fabrice qui nous appelle de Paris sur la question des effets secondaires. Lydie, bonsoir.
Bonsoir.
Nous vous écoutons.
Différentes choses à dire. D'abord, un grand soutien à Philippe. Je suis moi-même patiente alcoolique. On se dit alcoolique toute sa vie, quand on l'a reconnu, même si on est abstinent, comme mon cas depuis un certain nombre d'années. Donc un grand soutien pour lui et ce qu'il va faire. Ensuite, je venais soutenir, et un de vos interlocuteurs l'a souligné, l'importance des associations. Je vais en citer une. Les alcooliques anonymes, que personne ne les oublie. Allez-y, on vous accueillera et on vous aidera. Dans le soutien moral, encore et toujours, c'est eux qui m'ont sauvée. Moi, dans mon parcours, très rapidement, je suis une jeune femme, mère de famille, de deux enfants. Je me suis diagnostiquée alcoolique toute seule il y a 7 ans. Après ma deuxième grossesse, je suis tombée par fatigue, parce qu'un verre de rosé, effectivement, fait du bien et remonte le moral. Puis depuis 3, puis 4... Et ensuite, on ne tient plus à bord dans la famille. Donc, j'ai fait une cure de sevrage, effectivement. Donc, je peux aussi dire ce que c'est. Et ça fait du bien de rencontrer, de sortir de son cadre familial et de rencontrer d'autres personnes. Ensuite, donc, je suis désolée, je suis très émue parce que j'entends beaucoup de choses qui remuent, effectivement. Il faut le dire, le patient alcoolique, déjà n'est pas entendu.
Prenez votre temps, Lydie.
À la formation, vous parliez de la formation des médecins. Dernièrement, depuis un an et demi, même 2 ans, parce que c'est pas pour des raisons pour moi, c'est parce que mon papa est tombé malade, donc je dois l'aider et c'est un petit peu compliqué pour moi. Je vais voir un médecin et quand je lui pose d'entrée, parce que mon médecin généraliste a pris sa retraite, puis on a du mal à en avoir un autre. Bon, je vais voir un médecin, on me dit d'entrée, vous n'êtes pas alcoolique, madame, parce qu'on me regarde, j'ai l'air de quelqu'un de bien, de dynamique, qui travaille, qui a des relations normales. Et quand je leur dis je suis alcoolique, on ne croit pas. Donc une fois, deux fois, trois fois, la dernière généraliste, d'ailleurs une jeune remplaçante, a renversé son café, puis on m'a écoutée. Et c'est vrai qu'il n'y a pas de médicaments. Pour en venir au baclofène, si vous le voulez bien,
oui,
moi, dans mon parcours initial, en fait, le premier généraliste que j'ai vu, où je lui ai dit, donc j'étais tombée dans la maladie, ça fait 7 ans, et je lui ai dit, je suis malade, je suis arrivée, j'avais bu, donc il m'a cru, il m'a entendu, il m'a proposé du baclofène, excusez-moi. Je l'ai suivi pendant un mois, mais il a aussi eu l'intelligence de me dire je suis démunie face à ça et m'a dirigée vers un alcoologue. Cet alcoologue qui me suit aujourd'hui et c'est quelqu'un qui comprend et qui m'explique et qui m'a dit, voilà, enfin, c'était sa sensation à lui il y a 7 ans, hein, donc j'entends que depuis il y a eu des études, mais depuis 7 ans, il m'a dit, soit on peut continuer là-dessus, mais ce que j'entends encore ce soir et ce qui me fait très peur en tant que malade alcoolique, c'est qu'on propose avec baclofène de diminuer des doses. Or, un malade alcoolique est malade d'alcool, c'est-à-dire qu'il ne lui faut 0 alcool. C'est comme quelqu'un qui est malade du tabac. Je veux dire, on s'en sort, c'est 0 cigarette. Je ne connais pas quelqu'un qui vous dira qu'il faut continuer à fumer.
Merci,
éventuellement, on diminue, mais je veux dire, c'est la réalité des choses et il ne faut pas mentir aux gens. Il faut les prendre en charge tels qu'ils sont, les écouter et il ne faut surtout pas leur mentir parce que c'est suffisamment dur pour eux à l'affronter en société. Quand quelqu'un a le courage de venir voir un médecin et de dire « Je suis malade, s'il vous plaît, écoutez-le. » Et le baclofène, je souhaite que ça fonctionne. Pour moi, les études ne sont pas encore suffisamment approfondies. Moi, je m'en suis sortie par cette cure qui a duré 14 jours. Ensuite, je me suis beaucoup reposée. Puis, j'ai repris pied petit à petit.
Merci,
et
Lydie.
Puis aujourd'hui, voilà.
Merci, Lydie.
Il faut l'assumer aussi dans la société.
Bien sûr,
ça, c'est bien sûr.
Merci, Lydie, pour votre témoignage. Alors, abstinence par rapport à indifférence, il y a là une vraie question. Philippe Jory, Lydie dit, c'est abstinence, c'est pas indifférence. Expliquez-nous.
Moi, je respecte complètement le parcours de cette patiente. C'est son parcours, c'est sa vie. Permettez-moi, moi je ne suis pas d'accord. Pour moi, dire que je suis alcoolique, c'est une identité et ça me dérange. Pour moi, il n'y a pas de diabétique, il y a des patients qui ont du diabète, il n'y a pas d'alcoolique, il y a des patients qui ont un problème avec l'alcool. Pour moi, c'est complètement différent. Mais bon, après, je respecte ce qu'elle dit. Pour moi, on n'est pas alcoolique à vie, on a un problème avec l'alcool, point barre. Après, on peut discuter. Donc, l'abstinence, je respecte tout à fait. Je travaille avec les associations, j'ai plein de patients qui vont alcoolique anonyme, à narcotique anonyme. Je respecte complètement, à partir du moment où ça marche, ce qui compte, c'est que ça marche. Mais par contre, il y a d'autres associations, on peut citer Vie Libre, où c'est beaucoup plus libre et ils acceptent les patients sous baclofène ou qui prennent des psychotropes. Voilà, donc pour moi, c'est pas une identité, je ne suis pas alcoolique, j'ai un problème avec l'alcool. Mais c'est tout, c'est mon point de vue.
Michel Reynaud, on l'a bien entendu, merci. Ouais, Michel Reynaud.
Ben, je pense que, avec le témoignage de cette dame, on touche bien la difficulté de notre travail d'addictologue. Il y a des patients pour lesquels la réduction de consommation est possible. Il y a des patients pour lesquels elle n'est pas possible. Et alors après, c'est effectivement l'abstinence, et souvent, l'abstinence, elle est aidée par les associations d'anciens buveurs. Ces patients se sentent d'une grande vulnérabilité quant à la rechute et donc préfèrent se protéger comme ça. C'est très varié. Les patients sont plus ou moins dépendants et on n'a pas encore le marqueur qui permet de dire j'ai repris le contrôle ou j'ai pas repris le contrôle. Alors certains le savent, le perçoivent, mais quand c'est pas très net, on pourrait, si on avait là encore les moyens, de faire des travaux sur les problèmes d'alcool en France. D'abord, on essaierait des associations de médicaments, on essaierait de les adapter à la génétique ou à la typologie des patients. On regarderait, et on a maintenant en recherche la possibilité de voir ce qui se passe dans le cerveau quand on a envie de boire. On pourrait très vraisemblablement trouver, avec les progrès fantastiques de l'imagerie de ces dernières années, la reprise du contrôle, du fonctionnement cérébral cérébrale contrôlée. Pour le moment, on fait ce qu'on peut, on tâtonne avec nos habiletés cliniques et les histoires des gens.
Daniel Messager.
C'est vrai qu'il y a eu pendant très longtemps le dogme de l'abstinence, et c'était vraiment un dogme. Alors, chaque personne a son parcours et chacun est respectable, bien évidemment. Mais ce dogme, pendant longtemps, a fait qu'une personne qui n'y arrivait pas à cette abstinence pensait qu'elle était perdue à jamais. Et vous avez tous les deux l'expérience de ces patients qui n'étaient pas perdus à jamais, mais qui pensaient qu'ils l'étaient, qui du coup rebuvaient. Combien m'ont dit qu'ils avaient replongé en rebuvant ensuite encore plus qu'auparavant. Et je, voilà, ce dogme en France comme ailleurs n'est plus de mise à 100%.
En France, on est plutôt en avance, hein,
parce que
dans beaucoup d'autres pays,
juste, il faut savoir aussi, voilà, ça peut être un message pour les auditeurs aussi, de dire que même si on n'y arrive pas la première fois, et ben c'est pas pour autant qu'on est perdu pour la cause et que ça peut que ça peut marcher.
Moi, je dis aux patients,
Philippe Jory,
il n'y a pas d'échec, il n'y a que des succès différés. Et je pense à l'effet sourire. J'aime bien l'humour quand on prend en charge les patients. C'est pas moi qui l'ai inventé, c'est un tabacologue qui l'a inventé. Et je pense que c'est important parce que voilà, il faut. Et c'est vrai que souvent les généralistes disent voilà, de toute façon, qui a bu boira, ils vont retomber, donc je m'en occupe pas. C'est... Voilà, on leur dit maintenant que c'est possible. On leur dit qu'il faut les prendre en charge, comme le patient qui a du diabète et qui a son hémoglobine glyquée ou sa glycémie qui est trop élevée. Eh ben, on s'en occupe quand même. Je vois pas pourquoi l'alcool, on s'en occuperait pas quand même.
Fabrice, bonsoir. Vous nous appelez de Paris, nous vous écoutons.
Oui, merci pour mon appel, c'est un témoignage. Je viens pas témoigner sur l'effet du baclofène sur le craving alcoolique. Moi, je viens témoigner sur les effets secondaires du baclofène et la manière dont il est prescrit. Mon témoignage, il est étayé par la mort de ma femme il y a moins de 2 ans. Provoquée par le baclofène. Elle a été victime d'un raptus suicidaire qui a un effet direct, sans ambiguïté possible, de sa prise du baclofène qu'elle prenait en cas d'un craving alimentaire. Alors, je témoigne pour dire, pour ensuite, pour que cesse, en fait, si vous voulez, la monopolisation du discours sur le baclofène par ses élateurs quasi-sectaires. En fait, pendant très longtemps, et c'est difficile de faire entendre d'autres voix, et encore, et massivement, aujourd'hui, la parole sur le baclofène, sur ses effets secondaires, c'est de dire, c'est quasiment un miracle, il n'y a quasiment pas d'effets secondaires, il faut continuer à le prendre en tâtonnant, et on se prescrit sa dose. C'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. Les effets secondaires, il n'y a pas de dose minimale, il y a une dose qui a des réactions, qui entraîne des conséquences immédiates, quelle que soit la morphologie de la patiente, ou du patient. Il faut arrêter de dire que ce médicament, on doit pouvoir le prendre soi-même sans rien du tout, sans accompagnement.
Oui.
C'est un psychotrope qui agit, qui a des effets secondaires extrêmement puissants, au même titre que des antidépresseurs et d'autres médicaments. Et il faut donc arrêter de considérer qu'on peut prendre ce médicament de manière totalement sans craindre d'effets secondaires, ou que ces effets secondaires sont à peu près limités à des éventuels troubles du sommeil.
Merci Fabrice pour ce rude témoignage que je soumets à nos invités. Michel Reynaud.
C'est très très bien ce qu'a dit ce monsieur, ça nous permet de rappeler que dans les études qu'on a présentées, la mienne n'avait pas d'effet secondaire grave, mais était avec une population protégée. Celle de Philippe, il va en dire un mot, mais dans population moins protégée, il y a des effets secondaires graves, pas simplement les troubles du sommeil, l'anxiété ou la somnolence.
Les picotements, comme on a pu
oui,
le voir
les paresthésies, pas les paresthésies. Non, les vrais problèmes, c'est les suicides, les crises psychotiques ou paranoïaques. Ou maniaque, c'est les apnées du sommeil. Donc non, il y a des problèmes, et il y a en ce moment, on attend donc les résultats de l'étude de Philippe, mais il y a d'autres études et l'Agence du médicament a fait une enquête avec les données de la Sécurité sociale, de la CNAM, sur les populations prenant du baclofène, anonymisées évidemment, pour voir quelle est la gravité de ces effets secondaires, et là, la question n'est pas tranchée. Alors, et là où il a raison, c'est qu'il y a, dans le mouvement médiatique de soutien du baclofène, il y a eu d'énormes avantages à faire entendre la parole des patients alcooliques, pouvoir faire les essais qu'on a fait, mais en même temps, il y a eu des exagérations en disant on a trouvé le traitement, on n'a plus besoin d'alcoologues, on n'a plus besoin des associations d'anciens buveurs qui sont des assassins, et on n'a pas non plus, et ça va traiter toutes les addictions de la cocaïne, dans le cas présent l'anorexie boulimie. Donc voilà, c'est le retour de balancier.
Philippe Jory. Story. Sur la question de ces effets secondaires graves, mortels, disait notre auditeur Fabrice.
Un Français actuellement meurt toutes les 12 minutes des effets secondaires de l'alcool. Donc pour moi, le baclofène, évidemment, il peut provoquer des dépressions, il peut provoquer des suicides, encore faut encore le prouver, parce que bon, on sait très bien que beaucoup d'antidépresseurs le font aussi. On le sait, qu'il y a des antidépresseurs qui même ont été retirés à cause des suicides. Donc c'est une molécule très active qui a obligatoirement des effets secondaires. Ça me semble logique. Donc il faut qu'on forme les médecins à repérer les patients plus fragiles, pour lesquels c'est difficile de prescrire. Il faut former les médecins à repérer les effets secondaires. Il faut former les médecins à ce qu'ils puissent prendre en charge ces effets secondaires. Moi j'ai une patiente, je vais vous dire, j'ai une patiente qui a sauté du 12e étage récemment, qui est pas morte d'ailleurs, c'est un miracle, mais elle n'a jamais pris de baclofène. Alors qu'il faut arrêter non plus de tout, mais ça existe. Hein. Après, il faut trouver l'imputabilité. Pour ce, voilà, depuis 35 ou 40 ans, je m'occupe de patients toxicomanes, alcool et toxicomanie et les autres produits, le nombre de patients qui sont décédés est phénoménal. Ce sont des patients très fragiles. Dans mon étude, il y avait des patients qui prenaient de la cocaïne, qui fumaient du shit, qui prenaient de l'héroïne, qui prenaient tous les médicaments, qui étaient bipolaires. J'ai pris tout le monde. Donc évidemment, ils sont très fragiles, psychologiquement et physiquement.
Est-ce qu'il y a des différences hommes-femmes, des différences d'âge dans la prise de ce médicament et ses conséquences éventuelles, Michel Reynaud ?
On n'a pas assez de données, pas assez d'études précises pour pouvoir différencier. Comme je vous disais, il est très difficile de trouver un profil qui serait le bon candidat. On essaye avec les patients qui le souhaitent.
Pourquoi l'étude sur l'alcool est tellement en retard en France ? Vous le disiez tout à l'heure.
Parce qu'il y a un aveuglement sociétal lié à la culture du plaisir française. De l'alcool et du plaisir du vin en particulier, qui fait que tout ce que sont les dommages liés à l'alcool, de santé, de société, ne sont pas perçus, ne sont pas analysés, et qu'il faudrait d'abord mettre en valeur ce qui cause quand même un mort sur 10, hein, à peu près l'alcool, et un mort sur 5 avec toutes les addictions. Donc il y a une non prise de conscience, ni des pouvoirs publics et de la société.
Un petit mot de conclusion, Daniel Messager.
C'est pour aller dans le même sens. Hein. Je rappelle que l'alcool tue quand même 50 000 personnes par an. C'est la deuxième cause de mortalité après le tabac. Et que le dernier rapport de la Cour des comptes était quand même très virulent à ce sujet pour dénoncer l'indifférence des pouvoirs publics, tolérance générale, effet négatif sous-estimé, pas de priorité d'action publique, voire une certaine indifférence comme si c'était une fatalité
Il a même été étouffé, le rapport de la Cour des comptes.
Merci à tous les trois. Daniel Messager, spécialiste santé à la rédaction de France Inter. Philippe Jory, professeur de médecine générale à l'Université Paris-Descartes. Michel Reynaud, professeur en addictologie à l'hôpital Paul Brousse. Président du fonds Action Addiction. Énormément de questions au standard de France Inter ce soir. Merci à ceux qui ont pu participer, passer à l'antenne et mille excuses pour tous les autres. On refera évidemment des émissions sur ce thème. Le journal dans quelques instants.